Est-ce que vous pouvez nous présenter les films qui sont en compétition cette année au festival?
Alors, il y a 5 films. Ces films sont projetés 2 fois, toujours en présence du réalisateur et ou des acteurs et ou des producteurs. Alors, vous avez d'abord un film qui s'appelle Il Legionario, en présence du réalisateur et de l'acteur principal. Et là, c'est un film qui se passe à Rome, et c'est un peu l'histoire d'un, on dirait en France, un CRS d'origine étrangère. C'est le seul, d'ailleurs, et qui doit intervenir notamment pour expulser des gens qui occupent un immeuble, hein, disons des sans-abri qui occupent qui squatte un immeuble. Le seul problème, c'est que dans cet immeuble, il y a sa propre famille. Donc vous voyez un peu le débat qui se pose entre d'un côté son devoir de policier et en même temps son problème plus personnel, puisque parmi les gens qu'il va falloir expulser, il y a sa mère, son frère, voilà, sa famille. Deuxième film, Palais de Justice, Palazzo di Giustizia, de Chiara Bellosi. Elle sera présente. On est lors d'un procès qui oppose bien sûr un propriétaire d'un garage qui a été attaqué pour un vol, si vous voulez, par 2 personnes, et il s'est défendu et il a tué 1 personne. Donc il y a un procès entre le meurtrier qui s'est plaidé la légitime défense et puis le cambrioleur qui, lui, n'a pas été tué. L'intérêt, c'est que Chiara Bellosi ne pose pas sa caméra dans l'enceinte du tribunal, mais dans le couloir, où sont face à face les enfants des deux personnes qui sont, elles, dans le tribunal. Donc, on décale le point de vue et on voit comment, finalement, c'est à travers les enfants que l'on va suivre un peu ce tribunal, ce procès, mais ces enfants qui sont, en quelque sorte, les victimes, hein, des adultes, hein, du problème qui pose les adultes. Troisième film, Piccolo Corpo, de Laura Samani. Là, il y a un producteur français, puisque c'est une coproduction franco-italienne, qui a été au Festival de Cannes, ce film, et il nous a paru intéressant de le montrer, hein, de Laura Samani, effectivement, puisque c'est un premier film, et c'est une sorte de fable qui est censée se passer dans le nord-est de l'Italie, hein, vers les Dolomites, vers la Slovénie, en quelque sorte, au début du 19e siècle, et ça pose le problème d'une femme qui refuse d'obéir à la loi que veut lui imposer la communauté, puisqu'elle vient de mettre au monde un enfant mort-né, et donc qui doit être enterré, et la légende veut qu'un enfant mort-né est condamné à errer dans le limbe. Et elle, au contraire, sait qu'il existe une sorte de légende, personnage qu'il faut aller rencontrer, qui est capable de réveiller l'enfant le temps qu'on puisse le baptiser. Donc voilà, c'est tout l'itinéraire d'une femme qui, en fait, veut décider par elle-même, hein, et non pas se faire imposer par d'autres son comportement et sa décision. Autre film, L'Agnello, le film de Mario Pirid. Mario Pirid sera présent. Donc, il met en scène une jeune fille qui, bien sûr, se bat, comme les membres de sa famille, contre ces implantations dangereuses, mais en même temps, c'est doublé par une histoire personnelle, puisqu'elle veut permettre à son père, atteint d'un cancer, conséquence de ces implantations radioactives, eh bien, d'obtenir une greffe moelle osseuse. Pour cela, il faut que ce père se réconcilie avec son frère, qu'il ne voit plus depuis je ne sais pas combien de nombre d'années, qui est le seul personnage compatible, la seule personne qui a une moelle opinion compatible, hein, pour permettre donc cette greffe. Donc, à travers cette histoire, disons, intime, se joue quand même la situation de la Sardaigne. Et enfin, un dernier film. Alors, c'est un film qui se situe entre le documentaire et la fiction, et qui nous concerne, hein, qui nous intéresse, puisque ce problème, on le connaît. Nous sommes à Naples, dans l'histoire d'une jeune fille qui est d'origine marocaine, qui est mal à l'aise, qui se situe mal dans la société, qui idéalise son pays d'origine. Et donc, les deux réalisateurs, il ne sera présent qu'un seul, hein, Kazé Kaufman, et les deux réalisateurs vont suivre cette jeune fille pendant un certain nombre d'années, de 9 ans à 16 ans, pour voir un peu son évolution, comment cette jeune fille va vivre sa situation, finalement, d'immigrée, de jeune fille immigrée de deuxième génération.
Sont également présents d'autres films au festival. On sait que vous faites notamment des sélections hommages. Est-ce que vous pouvez nous détailler le reste de la programmation du festival?
Il y a deux hommages. Un à Christina Comencini, qui est donc une réalisatrice importante. Bien sûr, son père faisait partie de ces grands réalisateurs de ce cinéma dont je parlais tout à l'heure, qui a déjà une carrière très conséquente, cinématographique mais aussi littéraire, hein, puisqu'elle écrit beaucoup de romans. Et donc, on va lui rendre un hommage avec trois films. Ces trois films, s'il faut résumer en une phrase un peu ce qu'ils représentent, moi je pense que Christina Comencini est au cœur des problèmes qui se posent à notre société aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes sur la femme, la place de la femme, l'identité de la femme, le moi profond de la femme. Et on pense notamment à tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, etc., qui, quelque part, posent la question de savoir quelle est la place de la femme, qu'est-ce que la femme, quelle est sa situation dans la société. Et Christina Comencini, son cinéma répond à ces interrogations. Donc c'est un cinéma qui est en prise avec notre monde d'aujourd'hui. Deuxième grand réalisateur, c'est Gianni Amelio. Alors Gianni Amelio, c'est un immense réalisateur. C'est quelqu'un qui est Palme d'Or à Cannes, qui est Lion d'Or à Venise, qui est plein de prix, etc. C'est un homme qui vient avec trois films. Il faut savoir que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ce cinéaste. On a passé beaucoup de films dans les éditions précédentes. Là, on va passer, bien sûr, sur mon avant-dernier film. Il y a un autre film qui est assez intéressant sur la mondialisation, c'est l'histoire d'un ingénieur dont il assiste simplement à la vente de l'usine dans laquelle il travaillait à des Chinois. Et par conscience professionnelle, il sait qu'il y a une pièce défectueuse qui risque d'être très dangereuse, enfin, si l'accident se produit. Et donc, il va parcourir la Chine à la recherche de l'entreprise qui a acheté cette usine sidérurgique italienne. C'est une sorte de prétexte un peu pour parcourir la Chine d'aujourd'hui avec toutes ses contradictions. Et c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine. Et ce film actuel, hein, qui a été fait il y a quelques années, est très, très intéressant. Il vous montre la Chine dans sa réalité, hein, dans ses contradictions. Et puis un dernier film qu'on va passer, Porte ouverte, qui fait référence à une situation à l'époque du fascisme. Porte ouverte, c'était le slogan des fascistes italiens. On pouvait dormir porte ouverte. Ça voulait dire simplement, c'est une façon de cacher un peu la dure réalité d'un régime très autoritaire, très policier, où ils avaient rétabli la peine de mort. Donc c'est une adaptation d'un grand romancier italien, Sciascia. C'est un juge qui lutte contre la peine de mort, alors même qu'il doit normalement condamner quelqu'un dont la culpabilité ne fait aucun doute. Mais lui, par principe, est contre la peine de mort. Donc c'est une sorte de un film magnifique avec Jean-Marie Volonté. C'est un film bouleversant, magnifique, où finalement c'est une sorte de pamphlet en fait contre la peine de mort, contre l'autorité, contre le manque de respect de la personne humaine. Enfin voilà, c'est important. Et Gianni Amelio est un réalisateur marqué par un profond, profond humanisme. Après, il y a des documentaires, bien sûr. Je t'en ai parlé d'un, donc celui sur à partir de Pasolini. Deux documentaires, un qui est Alia Ferme, Leonardo Di Costanzo. Enfin, qui n'est pas vraiment un documentaire, excusez-moi, lui, il est marqué par le documentaire, Leonardo Di Costanzo. Il vient du documentaire. Ce réalisateur sera là pour présenter son tout dernier film, où il y a Tony Servillo et Silvio Orlando. Ça se passe en prison. Et ce film est une dénonciation de l'institution carcérale. Ça ne ressemble en rien au film habituel sur les prisons. Pas de tentative d'évasion, pas de violence, rien. Une sorte de parenthèse, de rapport entre les prisonniers et les gardiens. Et derrière se cache, bien sûr, une sorte de dénonciation de l'institution carcérale. Qu'est-ce que ça signifie, mettre des gens en prison? Ce film est remarquable, est tourné avec deux immenses acteurs professionnels et puis de vrais prisonniers qui jouent leur propre rôle. Ça, c'est important. Alors, ça m'a fait penser au documentaire parce que c'est une fiction, mais en fait, qui ressemble à un documentaire. Sinon, en documentaire, il y a deux films. Il y a un documentaire qui est bouleversant, c'est celui, le dernier film de Marco Bellocchio, immense réalisateur, qui revient sur la mort de son frère, jumeau, qui s'est suicidé et dont il porte le traumatisme en lui. Et donc, il va nous le révéler à l'occasion d'une rencontre de famille. Et ce traumatisme, en fait, qu'il essaye d'assumer, de comprendre, de s'expliquer, est la clé de tous ces films, de tous les films qu'on a pu voir de Marco Bellocchio, sur lesquels il revient. Subitement, en regardant ce documentaire, tout ce qu'on a pu voir tous les films qu'on a pu voir de Malcolm Baybock s'éclairent subitement, prennent un sens nouveau, une autre dimension. Et puis un autre documentaire qui va être sorte de un film concert, puisque c'est un documentaire sur Paolo Conte, que tout le monde connaît, un chanteur immense. Donc c'est un documentaire qui retrace un peu la carrière de Paolo Conte. On va entendre beaucoup de musique. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens très connus qui parlent de Paolo Conte. Et à travers ça, on va parcourir 50 ans d'histoire de l'Italie. Puis après, il y a des inédits, beaucoup d'inédits. Donc, j'en ai parlé un, celui de sur les prisons, Nadia Ferma. Mais il y a, comme inédit, il y a le film donc de Roberto Ando, Il Bambino Nascosto. Ça se passe à Naples. Un professeur de musique qui vit tranquille chez lui, à l'abri de tout, en dehors de tout, et qui subitement voit arriver chez lui un enfant qui se cache. Il découvre, il est venu se cacher chez lui, et cet enfant est recherché par des membres de la Camorra, c'est-à-dire de la mafia napolitaine. Et il vient se réfugier et va se nouer un lien très particulier entre ce vieux professeur qui vit tout seul et cet enfant qui arrive là et qui le conduit à affronter un monde qu'il ignorait jusque-là. Ça, c'est important. Il y a Queer Credo Io de Mario Marton. Mario Marton est un immense réalisateur, metteur en scène de théâtre et d'opéra. Et il fait un film avec Tony Servillo, qui retrace un peu la partie de la carrière d'un grand metteur en scène de théâtre, Scarpetta, du théâtre napolitain, Polichinelle, enfin, etc., qui a été le père de Eduardo De Filippo, une sorte de Molière, théâtre napolitain italien. Très important, qu'on a joué, au théâtre à Tours, même on a donné des pièces d'Eduardo De Filippo. Et c'est très important de voir cette famille de comédiens, comment cette famille se construit, etc., à travers le film de Mario Martone. Ça, c'est important. Leçon de théâtre. Grande leçon de théâtre. Et puis un film de quelqu'un qui était venu, de Pupi Avati, qui était venu à Tours. Un très beau film, très très beau film, à partir d'un roman autobiographique de quelqu'un qui a écrit son seul livre, il avait 95 ans, et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui ne s'en remet pas de la mort de sa femme, et qui secrètement continue à lui parler, et Pupi Avati, on a l'impression d'entendre Pupi Avati, quand il fait ce livre, nous parler lui-même, qui est un homme d'une grande humanité, grande sensibilité, et qui finalement nous donne, à travers cette histoire, nous donne une leçon de vie, un hymne à la vie, en posant la question, mais qu'est-ce que c'est que l'immortalité? Comment on peut continuer à vivre dans les souvenirs? Donc c'est un film qui traite bien sûr le problème de la mort, mais qui le traite d'une façon joyeuse et d'une façon optimiste. Voilà, un très beau film. J'espère que dans les films, il y a peut-être aussi un grand film dont je n'ai pas parlé, c'est Akihara, qui sera donné en séance scolaire et qu'on reprendra au studio le vendredi soir de Jonas Carpignan. Là aussi, oui, c'est un réalisateur qui normalement est distribué. Là, pas de distribution. Et ce film pose le problème de la 'Ndrangheta, non seulement Calabre, à l'occasion de la fête, une fête familiale, d'un anniversaire. Une jeune fille de 16 ans s'aperçoit que subitement son père a disparu. Et elle part à la recherche. J'en dis pas plus parce que si on est dans le contexte de la 'Ndrangheta, tout est possible. Et c'est une façon, à travers cette histoire, de parler de la situation de la 'Ndrangheta, cette mafia calabraise terrible qui sévit encore aujourd'hui. Et Jonas Carpignan, là aussi, c'est quelqu'un qui vient du documentaire et donc il parle d'une fiction, mais avec un regard de documentaire.